Frères et sœurs bien-aimés, la fête de la Toussaint nous rappelle la joie du ciel, qu'un jour nous serons avec Dieu, rassasiés de sa présence. Mais quand on lit les lectures de ce jour, il y a une autre tonalité qui apparaît, une forme de tension. Déjà, dans le récit des Béatitudes que nous venons d'entendre, on voit une tension entre heureux et toutes sortes de malheurs, pauvres, faim, soif, tous ceux qui sont persécutés. Il y a une tension, et pourtant on dit qu'ils sont heureux. Une tension qui peut, pour certains, apparaître comme une contradiction. Comment est-ce qu'on peut avoir faim et soif, être pauvre, persécuté et à la fois heureux? Mais cette tension arrive à son comble quand on lit l'Apocalypse, parce que on parle d'épreuve, et on sait bien que épreuve, c'est tentation. C'est-à-dire que pour arriver à cette vie éternelle, arriver à cette vie éternelle bienheureuse, il y a une épreuve. Une épreuve que chacun d'entre nous, nous avons d'une certaine manière à passer. Il y a une tentation. Et quelle est cette tentation? Cette tentation, on peut dire qu'elle prend sa source dans la personne humaine. Parce que en nous, il y a quelque chose d'infini. Si nous pensons à une vie éternelle, si nous l'accueillons comme une révélation, c'est qu'elle fait écho à ce que nous vivons aussi intérieurement. En nous, il y a quelque chose d'infini, l'intelligence et la volonté, la capacité de connaître et la capacité d'aimer. Potentiellement, si on avait le temps, eh bien, on pourrait tout connaître. Potentiellement, tout le bien qui s'offre à nous, on pourrait l'aimer en totalité. Cependant, on voit que ce désir qui est en nous peut prendre l'infini de l'intelligence et de la volonté. Et donc, il y a un combat pour dire, est-ce que je vais accepter une certaine pauvreté, une certaine limite? Est-ce que je vais accepter une finitude? Et on voit les combats qu'il y a eu, les tentations qu'il y a eu par rapport à l'athéisme, de dire non, il n'y a pas de vie éternelle, non, il n'y a que cette vie et après il n'y a plus rien. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une autre tentation. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est-à-dire de penser un homme désincarné, de penser un homme qui va au-delà des limites du corps. Et on a des preuves de cela dans des recherches qui sont faites où beaucoup d'argent sont investis, parce que beaucoup d'argent sont aussi espérés comme recette dans des cœurs artificiels, dans des cultures de tissus pour pouvoir fournir des reins ensuite, de façon à prolonger sa vie de plus en plus et de ne plus et de défier la mort. Et Laurent Alexandre, qui est le grand chantre de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, terminait une de ses conférences en disant « Parmi vous, certains vivront 1000 ans ». Au fond, la tentation qu'il y a aujourd'hui, c'est de ne pas accueillir cette limite du corps, aussi dont il s'est agi lorsqu'on a parlé des lois sur la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes seules. Mais cette question aussi se pose pour les couples composés d'un homme et d'une femme. Est-ce que j'accepte la limite de mon corps? Est-ce que j'accepte de passer par la porte des pauvres? Parce qu'il s'agit bien de cela. Nous sommes, chacun d'entre nous, invités à la vie éternelle, mais cette vie éternelle, c'est renoncer à quelque chose que l'on connaît pour accéder à quelque chose d'inconnu. Passer du connu à l'inconnu, c'est une épreuve. Passer du connu à l'inconnu, c'est quelque chose qui ne nous est pas familier, parce que personne ici ne peut même s'imaginer ce que ça veut dire mourir. Personne ne peut même s'imaginer la vie éternelle. On l'accueille de la parole, de la bouche du Seigneur, mais c'est en dehors de toute raison humaine et en dehors de nos cadres. Oui, il nous faut accueillir notre finitude. Et c'est la condition d'accès à la vie éternelle. Et c'est là qu'est la tentation. Parce qu'on peut très bien, par orgueil, dire « non, il n'y a pas de Dieu », l'athéisme, ou on peut dire par orgueil « eh bien, je veux vivre 1000 ans et défier la mort ». Oui, frères et sœurs bien-aimés, comme il est important, à travers cette fête de la Toussaint, de rappeler que la personne humaine est invitée à passer par la porte des pauvres. La première des béatitudes, « heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux », vous l'avez vu, elle est au présent, alors que les autres sont au futur, parce qu'au fond, cette béatitude des pauvres enferme toutes les béatitudes, rassemble toutes les manières d'accéder au royaume. Le pauvre, ce n'est pas tant celui qui n'a pas que celui qui ne peut pas, qui, au plan de sa santé, est malade, handicapé, il ne peut pas marcher, il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre. Au plan social, il ne peut pas s'insérer dans un contrat de travail, avec des horaires de travail, dans des relations sociales habituelles, se met en marge. Au plan financier, il ne peut pas gérer son budget, le 10 du mois, il a tout dépensé. Que sais-je ? Il y a 1000 formes de pauvreté. Oui, le pauvre, c'est celui qui ne peut pas. Mais au fond, la mort n'est-elle pas ce grand passage où on accueille notre pauvreté ? On est dans une impuissance, on se laisse faire. Et qu'est-ce que la béatitude qui nous attend ? C'est qu'on lâche prise dans les mains de Dieu et on reçoit de lui notre bonheur. Vous le savez, dans la vie éternelle, dit le catéchisme, il n'y a pas d'acte méritoire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une fois passé le seuil de la mort, on ne peut plus agir. Mais on se laisse agir, d'une certaine manière, par Dieu. On se laisse agir par Dieu, c'est-à-dire on se laisse prendre, on s'en remet à lui, on s'en remet à la prière des saints, on s'en remet à la prière de la Vierge Marie. N'est-ce pas là la grande pauvreté ? La grande pauvreté qui est à la fois la grande béatitude et le grand bonheur. Oui, il y a un combat ici-bas. Il y a un combat pour lutter contre une forme de toute-puissance de la technologie qui va de plus en plus nous offrir des potentialités alors que nous ne sommes pas malades. De fait, la PMA pour des couples de femmes, ce n'est pas pour traiter une maladie. On parle de cœur artificiel. Certains diront ben, « je veux bien un cœur artificiel parce que du coup, il sera plus résistant que mon propre cœur ». Oscar Pistorius, que vous connaissez, de l'athlète qui a été amputé d'une jambe, s'est fait mettre une prothèse qui, au fond, il a été disqualifié parce qu'elle était plus performante que n'importe quel autre pied naturel. C'est intéressant. Et du coup, la technique nous invite et nous proposera un homme augmenté dans ses capacités cardiaques, peut-être ses capacités intellectuelles, pourquoi pas dans sa vision, pourquoi pas dans sa marche, un homme, au fond, qui veut défier la mort. Là se trouve la grande tentation, la nouvelle tentation, mais qui est toujours l'ancienne. C'est la tentation de l'orgueil, vous serez comme des dieux. Quoi de nouveau sous le soleil, si ce n'est les moyens qui nous sont offerts, qui sont différents et varient selon les époques. Oui, frères et sœurs bien-aimés, cette béatitude des pauvres nous rappelle la puissance de la prière et nous rappelle l'urgence d'un lâcher-prise ici, maintenant, dans les mains du Seigneur. On en a un bel exemple avec la Vierge Marie, celle qui couronne de sainteté par sa prière tous ceux qui l'invoquent, eh bien la Vierge Marie, elle nous donne cet exemple d'un vrai lâcher-prise, d'une remise, qu'il me soit fait selon ta parole, non pas mon plan, non pas ce que je veux, mais toi, Seigneur, ce que tu veux. N'est-ce pas ça la sainteté, au fond, d'accueillir ses limites, cette finitude? L'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu, disait le curé d'Ars, et la Vierge Marie est par excellence celle qui est pauvre, qui s'en est remis au plan de Dieu, qui l'a dépassé complètement. Eh bien, elle a fait confiance. Oui, frères et sœurs, alors que la technique nous propose d'aller de plus en plus dans le contrôle et dans une certaine toute-puissance, la sainteté que nous célébrons en ce jour va au rebours complet de cette manière d'agir. Alors que la science nous invite à un homme désincarné, nous nous célébrons un Dieu qui a pris notre nature humaine. Oui, on voit qu'il y a un vrai combat pour accueillir, au fond, la révélation chrétienne, alors que les moines irlandais luttaient contre les rites païens. On voit aujourd'hui des rites païens qui, à nouveau, sont à l'honneur. Hein, alors oui, c'est intéressant de contempler notre temps et la vie éternelle comme un lieu de combat spirituel. Alors on va demander au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, d'être assez humble pour accueillir notre humanité avec toutes les limites qu'elle offre, limites de santé, limites intellectuelles, limites relationnelles, d'accueillir notre humanité telle qu'elle est, et non seulement de l'accueillir comme une sorte de résignation, non, l'accueillir comme un lieu où Dieu se révèle, où il veut nous emmener avec notre corps jusqu'en sa gloire. C'est ce que nous confessons dans le credo. Je crois en la résurrection de la chair, parce que nous croyons qu'avec notre corps, il y a une gloire et une joie encore plus grande d'être avec Dieu. Mais ça demande de faire confiance à cette révélation que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Demandons à la prière des saints que nous soyons vraiment dans cette attitude d'humilité. Nous soyons forts dans ce combat spirituel parce que, à certaines heures, on peut avoir cette tentation de toute puissance. J'allais dire, on n'a pas assez d'une vie pour lutter contre la toute puissance qui nous habite. Vouloir relever tous les défis et singulièrement le défi de la mort. Puisse l'intercession des saints et de la Vierge Marie nous y aider au quotidien. Amen.